Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Aligre. Vous êtes à l'écoute de l'émission Lusitania, comme tous les samedis de 18h à 19h. Lusitania est une émission hebdomadaire sur l'actualité culturelle liée à la lusophonie. Au micro, Marlène Alves, à la technique Célien et Armand. Et Lusitania reçoit aujourd'hui Grace dos Santos. Bonjour Grace.
Bonjour à tous et à toutes.
Nous allons parler tout au long de l'émission du Festival Parfum de Lisbonne qui fête cette année sa 17e édition. 17e édition intitulée Mouvement, Movimentos, qui sera présentée à la Maison du Portugal André Gouveia le 16 juin. Bon, il y a quelques événements, rencontres, conférences qui ont eu lieu au mois de mai, mais le festival débute en réalité au mois de juin et finit au mois de juillet. Le festival est composé de musique, de théâtre, de poésie, de danse, de cinéma, des arts divers et variés. Bonsoir donc encore une fois à Grace dos Santos. Vous êtes directrice du festival, mais vous avez bien d'autres casquettes. Pourriez-vous commencer par vous présenter ?
Oh, c'est compliqué ça.
Ben non, mais non.
Oui, je suis un peu un ovni. C'est-à-dire que je suis à la fois effectivement très, très liée à la compagnie Kaela qui organise ce festival maintenant depuis 17 ans. Mais je suis aussi professeure universitaire. Ce qui fait qu'effectivement ce festival croise aussi le monde académique et l'université par diverses choses, à la fois des rencontres comme des séminaires, comme aussi un colloque qui aura lieu au mois de novembre. Pour ce qui va nous faire déborder d'ailleurs au-delà du mois de juillet. Et voilà, de nombreuses activités qui croient. C'est pour ça aussi que nous sommes à la Cité internationale universitaire de Paris. Et donc aussi avec à la fois un public très ouvert pour cela, mais aussi avec des participants, des gens qui travaillent, qui collaborent avec nous, qui sont à la fois des professionnels, des amateurs, parmi lesquels des étudiants qui travaillent avec moi à l'Université Paris-Nanterre.
Et vous avez aussi publié quelques livres.
Oui.
Et quelques-uns ont été traduits en portugais et édités au Portugal.
Oui, tout à fait. J'ai écrit en fait mes recherches de théâtre sur le théâtre, c'est qui est mal la passion de ma vie, on va dire ça comme ça. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la question de la censure au Portugal et en particulier la censure pendant la période dictatoriale et précisément pendant
la dictature salazariste.
Exactement, pendant l'État nouveau, ce qu'il s'appelait l'État nouveau, dont on fête cette année la fin, le 50e anniversaire de la fin. Et j'ai publié un livre en France, puis il a été traduit au Portugal. J'ai écrit aussi et j'ai publié un autre livre sur Miguel Torga, qui est une de mes passions aussi. Et puis d'autres livres que j'ai dirigés ou co-dirigés, toujours en lien avec l'histoire culturelle française, européenne et portugaise.
Et oui, et surtout aussi quelques publications scientifiques, on va dire, entre guillemets, au CNRS, etc.
Cela s'explique par ma fonction à l'université. Et aussi, c'est-à-dire que j'ai effectivement ce qu'on appelle des publications scientifiques, mais j'ai aussi des articles de grand public et j'y tiens beaucoup. Je publie aussi sur des magazines, des blogs. J'essaye aussi d'être de brasser un public large pour ne pas rester dans un entre-soi que je ne trouve pas toujours très agréable.
Un entre-soi un peu intellectuel, on va dire.
C'est surtout qu'à force d'être avec des gens qui parlent comme nous, on se ferme dans sa façon de parler. C'est-à-dire qu'on ne transforme plus son langage, on n'écoute pas les autres de façon ouverte. On est dans un monde de convaincus. Donc moi, j'aime bien pouvoir ouvrir mon langage. C'est un exercice pour moi de renouvellement de la pensée et du langage.
Et toujours entre le Portugal et la France.
Oui, et le Brésil aussi.
Et le Brésil aussi, bien sûr.
Qui compte beaucoup aussi pour moi.
Vous avez été même, il n'y a pas longtemps, au Brésil, dans une université pour plusieurs colloques.
Oui, je suis partie comme professeure invitée à l'université du Rio Grande do Sul, à Porto Alegre, où j'étais professeure invitée. Et donc, j'ai fait pas mal de cours et il y avait un colloque prévu, mais malheureusement, la tragédie est arrivée, c'est-à-dire qu'il y a eu les grandes inondations, j'ai été prise là-dedans. Et ça a été un peu tragique et j'ai vu surtout mes collègues avec tellement de difficultés. J'ai vu un pays énorme qui est comme le Brésil, mais qui peut s'effondrer d'un moment à l'autre avec une tragédie comme celle-là. Et le Rio Grande do Sul, qui est un État très très grand, et la ville de Porto Alegre, qui a quand même presque 2 millions d'habitants. Et on va dire en une journée, tout est fichu, quoi, avec 5 mètres, 6 mètres d'eau qui ont tout envahi. Donc c'était assez catastrophique. Et là, ils vont mettre beaucoup de temps à se remettre de cela. Et je pense beaucoup à mes collègues que j'ai laissés dans une détresse absolue.
Bon, on va passer à quelque chose de plus joyeux, les festivals.
Oui.
Festival qui, comme vous avez dit, est organisé par la compagnie Kaela, de théâtre bilingue français-portugais, que vous avez créé.
Oui.
Et comment est née cette idée de ce festival pluridisciplinaire qui part de Paris, de sa région, en passant par Lisbonne?
En fait, il est né au quartier Beaubourg. Un jour, on était dans un petit réfacteur qui s'appelait, parce que malheureusement, il vient de fermer là, cette année, qui s'appelait de la Péronie. J'aimais bien aller voir boire mon petit café. Et nous, on parlait souvent de nos lectures, de nos travaux, parce que déjà, ma compagnie, on travaillait beaucoup en extérieur. Et les gens qui dirigeaient ce lieu nous ont demandé si on acceptait de venir... Pendant tous les samedis du mois de juin, de venir dire de la poésie en portugais et en français dans la rue. Alors nous, on a dit oui tout de suite. Et comme il y avait des personnes du cinéma MK de Beaubourg qui est juste à côté, qui étaient là, ils nous ont dit, mais pourquoi, si vous faites ça, vous faites avec nous du cinéma, on fait un festival. Et ça, en une heure, l'idée du festival est apparue. Et comme on n'avait pas de nom, comment appeler ce festival, et comme c'est un torréfacteur, ça sentait tellement bon le café, comme dans certains quartiers de Lisbonne d'ailleurs. Et donc, on s'est dit parfum. Et puis on a dit, parfum de Lisbonne. C'est ridicule, mais des fois c'est des choses comme ça c'est vraiment sur un ressenti commun. Et dès le départ, l'idée a été de faire à la fois des événements effectivement à Paris, mais également aussi en écho après à Lisbonne. Voilà, c'est ça.
Donc c'est un festival pluridisciplinaire qui cette année s'appelle Mouvement Movimento, et la formation d'une culture ou... On peut dire aussi une contre-culture urbaine, populaire, contemporaine. Quel est le but de ce festival?
Le but, c'est, déjà, on partage nos passions. Déjà, ça paraît un peu égoïste, mais déjà, on se fait super plaisir. Mais c'est surtout parce qu'il nous paraît très, très important de transporter les choses vers un public le plus élargi possible. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait des performances de rue, mais pas seulement, parce que ça se passe aussi dans des lieux clos. Et c'est surtout de partager nos passions culturelles qui sont au croisement de la langue et de la culture portugaise et française. Et quand je parle de langue, et culture française et portugaise, c'est dans toutes leurs variantes, c'est-à-dire précisément pour ce qui concerne le Portugal, le portugais du Brésil, le portugais de toutes les régions du Portugal, parce qu'on ne prononce pas le portugais de la même façon partout, et aussi le portugais des pays, les anciennes colonies, voilà, l'Asie aussi, parce qu'on a un collègue qui est très très calé là-dessus, et donc on essaye de brasser au maximum tout ce que nous considérons comme nos richesses que nous voulons partager et aller vers les autres. Et c'est très intéressant de voir comme c'est une forme d'hybridité en fait qui rassemble en fait, c'est ça. Et notre idée, c'est aussi de réveiller aussi pour ne pas tomber aussi dans du conventionnel, chercher des nouveaux chemins. On essaye toujours de trouver des auteurs et des autrices qu'on donne à voir et entendre en portugais, en France, en français, traduit du portugais vers le français pour la première fois. Et comme nous avons la chance inouïe d'avoir un gros laboratoire de traducteurs avec nos étudiants et nos collègues, et cette année par exemple, on donne à écouter une grande autrice qui est très peu parlée, dont on parle très peu au Portugal, elle est souvent ignorée, et ici elle est totalement ignorée, elle s'appelle Yvonne Chinit. Je pourrais en parler un peu plus après si tu le souhaites.
Oui.
Voilà, mais elle est complètement ignorée. J'étais même assez étonnée parce que j'ai un collègue qui est le grand spécialiste de la littérature et de la poésie portugaise, qui s'appelle José Manuel Esteves, qui dirige aussi la chaire Lindley Sintra à l'université Paris-Nanterre. Il ne connaissait pas beaucoup cette autrice, et nous on a construit le fond même de notre performance, notre création cette année autour de cette autrice-là et d'une autre autrice française dont maintenant on parle un peu plus, qui s'appelle Charlotte Delbo, qui était une résistante à l'occupation nazie en France, qui a été la secrétaire de Louis Jouvet et qui était liée au Parti communiste français et qui a fait des camps à Auschwitz-Birkenau. Et elle est revenue vivante comme une exception parmi tant d'autres qui sont restés là-bas pour toujours. Et elle a écrit la première pièce sur, au niveau international, hein, la première pièce sur le 25 avril au Portugal, c'est elle qui l'a écrite. Une Française. Elle l'a écrite en 1975. Il n'y avait pas encore la fin du processus révolutionnaire portugais.
Ben oui, parce qu'il a commencé en 1974, voilà. Donc oui, voilà. En effet. Alors, on parlera après de ces deux auteurs, moi, que je ne connais pas, surtout Yvonne Schmitt.
Schinitt. Ça s'écrit Schinitta, ça s'écrit C-H-I-N-I-T-A. Elle était de Grândola, et donc c'est une Portugaise. Je suis passionnée par cette dame exceptionnelle. Malheureusement, elle est décédée. Mais d'autant plus que je trouve que c'est important que des voix comme ça, qui n'ont pas eu la portée qu'on aurait dû leur donner, c'est important que nous, en tant qu'artistes, on les donne à entendre. Voilà.
Ok. Et moi, je voulais te demander aussi, comment prépare-t-on un tel événement? Parce que c'est quand même 2 mois d'activité, enfin, on va dire, des rencontres, des pièces de musique, des théâtres, des poésies, enfin, la danse. Il y aura aussi du cinéma, on en parlera un peu plus tard. Comment?
En fait, c'est parce que nous sommes un groupe un peu de dingue, je pense. C'est-à-dire qu'on est tellement passionnés par ce qu'on fait qu'on est tout le temps en train d'imaginer ce qu'on va faire l'année suivante et déjà l'autre. Par exemple, là, déjà, je sais à peu près ce que je vais faire l'année prochaine. Et donc, à chaque fois, y compris d'ailleurs avec nos étudiants qui deviennent aussi des aficionados du truc. Et ensuite, on essaye de donner... D'abord, il faut trouver une thématique. Et à partir de cette thématique fédérale, ensuite, on rassemble le tout. C'est-à-dire que, par exemple, le cinéma MK2 Beaubourg, ils savent déjà comment on travaille. Nous, on suggère des films. Eux, ils nous disent si c'est possible ou pas. Et à partir de là, ça vient. Et une fois qu'on a aussi... moi, j'écris un texte de présentation vers la rentrée, là, par exemple, en septembre. Je vais avoir un texte de présentation qui sera retouché, mais déjà comme un argumentaire du festival de l'année prochaine. Et comme cette richesse de pouvoir être à l'université, de croiser mon université me soutient beaucoup, eh bien, ça permet de mettre en lien d'abord plusieurs générations, des publics, parce que je croise même avec des fois des collègues qui ne sont pas du tout liés à la culture portugaise et tout ça, mais qui apportent autre chose. Et ce qui est important aussi, c'est de voir, par exemple, à la Cité universitaire, de pouvoir être avec la Maison du Brésil, la Maison du Portugal, ou d'aller à Lisbonne, d'être à la Faculté des Lettres de Lisbonne, où il y a la bibliothèque, il y a un hall avec un piano magnifique. Oui. Et donc, on présente là. Et par exemple, cette année, on va être à Snob Livrerie, qui est un des lieux cultes en ce moment pour la poésie et surtout pour le féminisme au Portugal, la littérature féministe au Portugal. Et donc, évidemment, cette année, avec ces deux autrices, là, on va produire aussi quelque chose là-bas. Donc c'est un peu aussi, pour nous, ça n'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans le souhait de ne pas reproduire ce qu'on a fait, sinon on s'ennuie, et de renouveler à la fois les liens et de trouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous dans ce que c'est pour nous la culture et le partage et tout ça. Et puis de retrouver à chaque fois des auteurs ou des autrices différents et de pouvoir donner des formes de création différentes à tout cela. Mais ça prend le tout, c'est de trouver la cohérence du projet à chaque fois pour l'année suivante sur le thème.
Oui, la thématique.
La thématique.
Et après, fédérer les gens.
C'est ça. Mais en fait, on est déjà comme... Il y a un relationnel qui est déjà en place. Et puis, on a aussi des structures qui nous soutiennent. Moi, je ne pourrais absolument rien faire si je n'avais pas le soutien de la mairie de Paris, qui nous soutient depuis 2007, qui nous soutient tous les ans. La Direction Générale des Relations Internationales de la Mairie de Paris. Aussi, le ministère des Affaires étrangères par le biais de la DGACCP, qui nous soutient aussi depuis le début. Et puis, mon université, qui vraiment nous soutient. Alors, par soutien, j'entends, pour les deux structures que j'ai citées au début, c'est un soutien financier qui n'est pas énorme, parce que nous sommes un festival. Moi, je ne suis pas payée. Personne n'est payé. Par contre, personne ne dépense d'argent. C'est-à-dire que si on a un voyage à faire, parfois, mon université offre, peut contribuer à payer des voyages, aussi, on fait comme un réseau sel, c'est-à-dire qu'on offre notre savoir et on nous reçoit en contrepartie. Par exemple, je ne paye pas de salle, vous savez, le coût des salles.
C'est énorme.
Et moi, je ne paye pas de lieu. Voilà, parce que nous, on échange avec nos activités. Quand je produis, là, on a quand même des beaux éléments. Là où on investit beaucoup, c'est dans les affiches, les programmes. J'essaie que ce soit très soigné, qu'on ait un site qui soit très lisible. Et ça, j'arrive aussi à trouver des jeunes, là c'est Johanna Goussaert avec qui nous travaillons depuis l'année dernière, qui est superbe parce qu'elle nous fait elle est très à l'écoute, elle comprend très très bien notre projet et à chaque fois elle produit un objet
intéressant. Oui. Alors on va partir en musique avec un premier, on va découvrir un premier morceau proposé par toi, Grâce à Duchamp, mais avant, dites-moi pourquoi ces choix? Et le morceau s'appelle, c'est de José Afonso, Mulher da Erva.
Alors, Mulher da Erva, pour deux raisons. Moi, chaque fois que je parle, je pense à cette chanson et tu m'as dit le titre, et déjà, ça me met la chair de poule. Parce que lorsqu'on parle de José Afonso, il représente la musique protestataire contre la dictature au Portugal. Et bien sûr, il est l'auteur de Grândola Vila Morena, donc c'est ça dont on se souvient surtout. Mais c'est sur les chansons qu'on cite de José Afonso, c'est toujours des chansons sur des hommes, en fait. Comme d'ailleurs sur la Révolution, c'est surtout des hommes. Et là, Mulher da Erva, c'est une chanson tellement belle sur une femme qui est très âgée et qui va ramasser de l'herbe et puis qui s'efface. En fait, c'était un peu tragique, on a l'impression qu'elle meurt. Hein. Mais c'est un très très beau, une très belle balade où on raconte la vie d'une femme
à la campagne.
Mmh. C'est très beau et le début est très beau. Et nous, on a repris cela parce que là, après, on développera peut-être ça un peu mieux, mais par rapport à Yvonne Chénit, ça entre parfaitement. Et nous, on a repris un Mulher da Erva sans vouloir imiter José Afonso, qui est absolument inimitable. Il se suffit bien à lui-même. Mais j'ai des grands musiciens qui ont retravaillé pour le public que nous avons et surtout pour les interprètes que nous avons. Et ils ont fait quelque chose de très, très beau. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui faire entendre l'original.
On va l'écouter.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Velha da terra morena, pensa que é já lua cheia, vela que a onda condena, feita em pedaços na areia. Saia rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo vem. A mulher pega na braçada, erva fresca, supremo bem. Cantarola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem me lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, venda fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Na calçada uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura de erva fora, supremo bem. Cantarola tua amargura, manha moça nunca mais vem. Thank you.
Alors, on vient d'écouter José Afonso Mulher da Erva. Alors, on est bien sûr avec Graça dos Santos, qui est la directrice du festival Festival Parfum de Lisbonne, et que cette année s'intitule Mouvement Movimentos. Donc, tu nous parlais d'une autrice, Yvonne Chinita, et que je ne connais pas. Peux-tu nous en parler un petit peu?
Oui, c'était une militante liée au Parti communiste portugais et qui est allée s'installer aux Açores, à l'île des Açores. Et elle a une production en tant que poète, des chroniques, et elle a écrit un recueil qui s'intitule Mulher em Horas de Ponte, ça veut dire femme à l'heure de pointe, et qui est sur les femmes au travail pendant cette période-là. C'est quelque chose qu'elle a écrit dans les années 70, ça a été publié juste au moment après le 25 avril aux éditions Je me dis de Fonte. C'est un ouvrage absolument trouvable, et ce sont des tout petits textes qui sont des poèmes en prose, qui sont d'une écriture comme je n'ai jamais vu, une écriture qui nous renvoie au son, du travail des personnes, à la douleur aussi, à la fatigue, et surtout au corps éprouvé des femmes. C'est des choses très très... Alors, lorsqu'on parle des nouvelles lettres portugaises par Maria Isabel Berrien, Maria Teresa Hort et Maria Velho de Costa,
les trois Maria,
c'est en général lorsqu'on veut parler de cette période-là et d'une écriture féminine ou féministe. Mais, par exemple, moi, je pense que c'est vraiment Yvonne Chinita, c'est un autre genre, mais c'est vraiment extraordinaire. Nous, par exemple, pour le festival, on a choisi de prendre simplement un extrait, une page, une toute petite page qui s'appelle Juliette, qu'on a traduit tout de suite. Eh bien, Juliette, ça fait penser à Roméo, bien sûr.
Mais oui.
Eh bien, c'est justement un amour tragique qui se termine mal. Juliette, moi je raconte simplement, le texte n'a absolument rien à voir avec ça. Juliette, elle est dans un village de Valentejo où il fait très chaud et elle travaille comme les hommes et les femmes pour gagner sa vie. Et elle tombe amoureuse d'un jeune homme, ils sont amoureux tous les deux, sauf qu'on est en pleine dictature. Et deux choses, lui va partir à la guerre en Angola, doit partir à la guerre en Angola.
Qui à l'époque c'était 3 ans quand même.
3 et 4 ans même.
Oui,
et donc,
oui.
Voilà. Et donc il y a déjà cette épée de Damoclès. Et ensuite, elle a des relations amoureuses avec lui, elle tombe enceinte. Et évidemment, à l'époque, c'était très, très, très mal vu d'être enceinte, qu'on n'était pas mariée. Donc, on l'appelait porca parideira, c'est-à-dire truie engrossée. Hein. Et donc, elle a peur, elle commence à avoir très peur. Et comme elle sait que son amoureux va partir, eh bien, elle se suicide. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est tout ça, c'est dit d'une façon très particulière, très simple, qu'on comprend très vite ce qui se passe. Le village qu'il a critiqué ensuite dit « Ah, ça arrive à tout le monde, c'était une bonne fille, une fois qu'elle est morte, bien sûr. »
Bien sûr.
Et le jeune homme, de tristesse et de dépit, il se suicide également. Et c'est pareil, on dit sur lui « Ah, ça arrive à tout le monde, le pauvre. » Et le texte se termine par une phrase lapidaire. « Ma época do ano, Juliette. » Mauvaise saison de l'année, Juliette. En fait, c'était pas seulement la saison qui était mauvaise, c'était la période, bien sûr, dictatoriale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en encore un texte aussi court, on parle de toute la situation dictatoriale, c'est-à-dire la peur, le silence, se cacher. Il y a une partie censure.
L'Église aussi, qui est très forte
oui, oui. Là-dedans. Et évidemment la guerre coloniale, mais aussi l'immigration, parce qu'à un moment donné, on a la sensation que ça va. Et donc, c'est très intéressant de voir comment elle a réussi à tout résumer en très très peu de mots. Et c'est une écriture très très forte. Et j'étais frappée par le fait que la traduction est encore plus poignante presque que l'original. Et donc, à cela, moi, j'ai ajouté des textes de Charlotte Delbo, parce que Charlotte Delbo, elle a écrit une pièce de théâtre donc sur le 25 avril au Portugal. Mais ce qui est très particulier, c'est que Charlotte Delbo, elle a écrit une pièce sur les femmes et sur les femmes dans les villages pendant la Révolution.
Pendant la Révolution.
La Révolution des œillets. Alors que lorsqu'on parle de la Révolution des œillets, on parle de jeunes hommes avec des tanks.
Des militaires.
Ah, voilà, avec l'œillet rouge dans la ville, hein, des jeunes dans la ville.
Tout à fait.
Alors que
pas dans les villages.
Pas dans les villages. Et là, c'est des femmes. femmes essentiellement, et sur la condition de vie des femmes de l'époque, beaucoup de critiques sur l'Église, sur les délateurs, enfin sur cette ambiance absolument étouffante qu'il y avait au Portugal à l'époque. Et c'est une pièce absolument magnifique qui s'intitule... Alors tu vois ça très intéressant parce qu'elle s'intitule Maria Lusitania, donc tu vois il fallait pas l'inventer.
Et non.
Voilà. Et donc dans ce que nous présentons, dans cet ensemble que nous présentons, j'ai introduit non pas des extraits de cette pièce, mais j'ai introduit des poèmes que Charlotte Delbault a écrit absolument magnifiques sur l'amour impossible, parce que elle, son amoureux, il s'appelait Georges Dudac, et quand elle a été ils ont été arrêtés tous les deux par la Gestapo, et quand il a été arrêté, il a tout de suite été fusillé. Et donc, elle, son amour s'est arrêté comme ça. Et donc, c'est aussi sur cette impossibilité de vivre son amour. Et donc, j'ai repris des extraits de sa poésie. Et elle a écrit aussi un très beau poème sur ce que c'est qu'une révolution. Et j'ai dit, ah, il faut le mettre.
Super, voilà. Il faut le mettre cette année.
Voilà.
Alors, cette année, pour parler de cette année, on fête, bien sûr, les 50 ans de la Révolution des œillets, avril 1974. Je pense que la thématique du festival Mouvement, Movimentos est en face avec cet anniversaire.
Oui.
Voilà. En plus de ces deux écrivaines, on va dire, qu'est-ce qu'il y a dans les festivals? Est-ce que cette dictature portugaise qui se méfie et réprime tout, c'est qui art, théâtre, etc. Vous abordez cette pan de l'histoire portugaise?
Oui, ce que nous avons essayé de faire, c'est de ne pas... Parce que normalement, ces commémorations, elles sont déjà très bien faites par beaucoup de gens. Et nous n'avons pas voulu reprendre ce qu'on fait déjà si bien ailleurs. Pour nous, c'était très important d'essayer de faire... Ce n'est pas forcément d'être différent des autres, mais peut-être d'aller éclairer d'autres pans qui n'ont pas été évoqués. Nous, surtout, la question des femmes et de la visibilité, leur silencement pendant la période dictatoriale, pour nous, c'était important qu'elles soient visibles. Donc, on a fait... Il y a eu deux séminaires qui s'appelaient « Voix féminine de la Révolution des œillets », mais aussi, par exemple, là, ce jeudi prochain, nous allons avoir Ginette Lavigne, qui est une réalisatrice, qui a réalisé un film sur Otelo Serraiva de Carvalho, qui a été un des capitaines qui a fait le 25 avril. Et donc, elle a réalisé un film sur lui et avec lui, où il raconte comment il a fait le 25 avril. Ce qui est très intéressant, c'est que Otelo Serraiva de Carvalho, il s'appelle Otelo, grâce au théâtre. Ses parents aimaient le théâtre et l'ont appelé Othello à cause de Othello de Shakespeare. Et lui, son rêve dans la vie, c'était d'être acteur. Et donc, ce qui est très, très drôle, c'est que Ginette Lavigne, il arrive avec un petit cartable, avec son téléphone, toutes les notes qu'il avait quand il avait fait son 25... Parce qu'en fait, lui, quand le 25 avril a été lancé, lui, il était dans une pièce et il lançait les ordres. Il
était c'était lui qui était le chef, entre guillemets, du mouvement.
Et alors, il explique, il se met face à la caméra. Alors, quand je suis arrivée, moi, j'ai mis ça, vous voyez, j'avais ça et tout. Alors, il sort son pistolet. Enfin, il sort ses trucs. C'est très, très intéressant. Et Ginette, elle capte ça. Et c'est une chose hors du temps. Et cette espèce d'auto-représentation de soi en train de faire une révolution, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et c'est vraiment, je pense, un objet unique. Alors, ce film, il a déjà une dizaine d'années, je pense. Mais... il n'a pas été beaucoup vu. Et donc, nous avons fait un séminaire qui va être donné au consulat du Portugal ce jeudi à 18h30, ce jeudi 13 juin. Et elle va venir, donc le film sera projeté, et elle va venir parler sur ce film avec Régis Salado, qui est un collègue de l'Université Paris-Cité. Voilà. Par exemple, ça, c'est un des exemples de...
C'est que vous allez faire...
C'est ça. Nous, ce que vous voulez donner, c'est des échos du 25 avril, c'est-à-dire des choses pluridisciplinaires. Par exemple, il y a une semaine, on a reçu un collègue italianiste qui travaille sur le post-colonial portugais. Moi, il m'a appris des choses que j'ignorais complètement. C'est le rôle qu'a joué le mouvement protestataire italien anticolonial dans la décolonisation portugaise. Moi, je ne le savais absolument pas. Il est venu nous expliquer comment il y a eu une triangulaire entre l'Italie, le Portugal via les colonies, et la France, parce que la question du colonial intégrait aussi l'Algérie et bien sûr la guerre d'Algérie. Et donc il nous a montré ça et c'est très très intéressant, c'est des choses que j'ignorais.
Ah oui, moi aussi. Je ne savais pas que l'Italie avait eu une intervention, on ne peut pas dire comme ça, mais un rôle oui. qu'il a joué profondement oui. par rapport à la Révolution portugaise. Okay. On va partir en musique avec Sétima Légion, Girasol, et après tu nous parleras un peu de cette musique.
Allegre FM 93.1
brilhar na escuridão, seguir a voz de
on vient d'écouter Septima Légion. Le morceau s'appelle Girasol. Et cette musique que grâce à Duchamp nous a proposée, qu'est-ce qu'elle vous évoque ?
Bien, ça, c'est un peu en écho à la première parce que José Alphonse évoquait une vieille femme au travail. Et là, c'est vraiment c'est le monde rural, hein. C'est des paysans au travail et cette dame qui chante au début. C'est quelqu'un qui reprend ses chants qu'on entonnait pour pouvoir se donner de la force pour travailler. C'est, je trouve, très, 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 très beau parce qu'elle parle du blé qui a été coupé et elle dit... elle parle de la récolte, enfin. Et ensuite, la musique aussi, je trouve très intéressant ce mélange entre ce qui est rural, le populaire, et puis une musique qui sort du traditionnel, quoi. Donc, puis cette émergence, c'est vraiment un groupe très intéressant qui a beaucoup renouvelé la musique au Portugal dans les années 80-90. Et pour moi, celui-ci, c'est vraiment un de leurs meilleurs disques, c'est Sexto Sentido. C'est vraiment de l'armée. Voilà. Et donc, nous, on reprend juste le début de lorsque la dame, cette voix de cette dame qui chante, et ensuite, on reprend juste une petite partie de l'instrumental et qui est un moment chorégraphié par tout le groupe.
Alors, tout à l'heure, avant d'écouter cette musique, on parlait des auteurs portugais et français qui seront lus en extérieur, dans divers lieux. Comment choisit-on, d'une part, les auteurs, d'autre part, les lieux ?
Là, les autrices, je pense que pour cette année, je l'ai un petit peu expliqué. Mais c'est un peu aussi le
hasard. C'est que des autrices cette année ?
Alors, je pense que nous aurons aussi. Au départ, j'avais pensé mêler certains textes qui me plaisent beaucoup sur la question de la peur et de la censure et qui étaient des textes masculins. Mais au fil du travail, souvent, on part avec un projet et puis il évolue. Voilà, et là, il a évolué. La seule autrice qu'on va encore rajouter, c'est Natália Correia, parce que voilà encore une autrice extraordinaire portugaise qui est si peu connue en France, pas beaucoup traduite, et qui au Portugal, elle est connue bien sûr, mais elle n'a pas, de mon point de vue, l'aura qu'elle devrait avoir. Pour moi, Natália Correia est un mix entre Gisèle Halimi et Simone Veil, puisque Natália Correia, elle a beaucoup fait, elle a publié les premiers écrits érotiques, c'est elle qui les a publiés, elle a d'ailleurs été aussi poursuivie par la police de Salazar, et donc c'est une femme qui s'est beaucoup battue aussi sur ces questions-là, et la question de l'avortement, c'est quelqu'un qui très très tôt au Portugal a revendiqué pour l'avortement,
l'autorisation. Le droit à l'avortement. Qui était complètement interdit aussi bien par le gouvernement que par l'Église.
Bien sûr, et c'est très récent, il y a très peu de temps que l'avortement est légalisé au Portugal. Et donc, elle, c'était vraiment une femme majeure. Et donc, elle a un texte très très beau. Au moment, elle a une sorte de journal qu'elle a fait au moment du 25 avril. Elle a fait son 25 avril, où elle raconte tout ce qu'elle voit. Et ça s'appelle « Non perque rose »,« Ne perds pas la rose ». Et dans ce journal, il y a des textes absolument sublimes. Elle décrit le moment où la population se mêle aux soldats dans la rue. Et c'est d'une beauté. Donc, on va aussi utiliser...
Le mettre en valeur.
On va le mettre en valeur, oui.
Oui. Alors, je voudrais savoir aussi, parce que, bon, il n'y a pas que des tests, il y a aussi du théâtre, il y a de la danse, de la musique... Comment on fait les choix de ces spectacles ? Est-ce que c'est par rapport au lieu où vous allez jouer ou c'est le contraire, c'est les lieux qui vous imposent les spectacles, la danse ?
Moi, je dirais que tout ça, ça se mêle parce qu'en réalité, souvent, nos présentations, souvent, elles sont plus pluridisciplinaires en elles-mêmes. Parce que, par exemple, ce que nous allons donner à voir le 16 juin, c'est-à-dire dimanche dans une semaine, eh bien, il y aura effectivement une partie chorégraphiée, une partie jouée, il y aura du chant, il y aura de la musique. Et il y aura des moments parlés, donc déjà l'ensemble est déjà ça. Et c'est évident que les lieux où nous sommes, On les choisit essentiellement, non pas seulement pour le lieu, mais pour les relations que nous avons avec les personnes qui dirigent ces lieux. C'est très important pour nous que dans ces lieux, il y ait un esprit de travail qui corresponde à ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et ensuite, ces lieux-là nous convoquent aussi à faire des choses. Donc, on commence avec un projet et puis il arrive très souvent que ça évolue.
Ça change. Alors, bien sûr, vous êtes à l'écoute de Lusitania et avec nous, Graça Duchamp, directrice du Festival Parfum de Lisbonne, festival duquel on va parler pendant toute l'heure. Alors, il y a aussi dans ce festival Parfum de Lisbonne un regard sur le cinéma lusophone. Pouvez-vous nous parler un peu de ces films qui vont être montés? Comment se fait ces choix? Quel est l'endroit où ils vont y être montrés?
Ils vont être montrés au cinéma MK de Beaubourg. Ça va commencer, c'est tous les samedis, il y a trois samedis du mois de juin. Donc ce sera le samedi 15 juin, le samedi 22 juin et le samedi 29 juin. Et ce sont trois films que nous avons sélectionnés. Parce qu'ils font écho à un Portugal d'aujourd'hui, mais aussi, ils sont le reflet d'un Portugal d'aujourd'hui, mais ils font écho aussi aux effets du passé, si je puis dire. Et par exemple, le premier film qui s'appelle Légua, il se déroule dans le nord du Portugal, dans la région intérieure, et ça se passe dans une grande maison de personnes d'une élite, hein, qui est tenue par des gens du village. Et donc, et ces personnes sont toujours absentes. Et ce sont aussi des femmes qui tiennent cette maison. Le film est d'une force incroyable. Je ne vais pas trop dire des choses, mais j'invite les personnes qui ont du temps à venir voir ce film. Ce sera à 11h au MK2 Beaubourg samedi prochain.
Et quels sont les deux autres?
Ensuite, nous avons aussi La Diva aux pieds nus, qui est sur Cesaria Évora, oui, et qui est un documentaire qui est très intéressant parce qu'il révèle des choses sur Cesaria Évora dont on parle peu. Et puis, ça rappelle aussi l'importance et la singularité qu'a eue cette femme. Et bien évidemment, là, on est aussi dans l'aspect lié le poids qu'a eu l'Empire, hein, l'Empire colonial portugais. Et c'est très important pour nous aussi de bien marquer cela. Et puis, Cesaria Évora, qui est décédée, elle a laissé vraiment une musique tellement importante. Et puis elle, en tant que femme aussi, ça a été quelque chose. Donc, voilà. Et puis l'autre film, je crois que s'appelle...
Non, mais c'est
voilà,
c'est
j'allais
normal.
Dire... Non, parce qu'en fait, c'est loup et chien. Mais nous, on a une expression en français, c'est entre chien et loup. Alors des fois, je dis le contraire. Donc, c'est loup et chien, et ça se passe à l'île des Açores. Et c'est aussi sur un monde très, très contemporain, mais qui fait aussi écho à une île. Une île, c'est toujours un monde fermé. Et donc, avec une jeunesse aussi hein, qui se cherche et qui veut aussi se battre pour son existence et sa façon d'être. Donc, voilà, c'est aussi cela. Et après chaque film, nous avons un débat, ce qui permet de développer, hein, de parler autour du film avec le public, toujours.
Dans ces débats, est-ce qu'il y aura des metteurs en scène
Alors, cette année, nous avons surtout des débatteurs, si je puis dire.
D'accord.
Mais parce qu'en fait, comme nous sommes très pauvres, et ça dépend où sont les réalisateurs ou les acteurs, il est arrivé qu'on ait pu avoir plusieurs qui étaient déjà parfois à Paris ou des choses comme ça. Sinon, il faut quand même payer les voyages, un séjour.
Transport ici.
Exactement.
Oui, c'est sûr. Alors, il y a ces événements-là, mais quels autres événements vont se produire pendant tout ces deux mois? Parce que,
oui,
bon, on a parlé de la littérature, on a parlé un peu de cinéma, mais il y a aussi tout ce qui est danse,
oui,
musique.
Ce que je voudrais dire cette année, c'est que normalement, nous faisons donc le lancement au quartier Beaubourg. Et cette année, on va le faire à la Cité internationale universitaire de Paris, entre deux maisons, qui est la maison du Portugal et la maison du Brésil.
Qui sont à côté.
Qui sont face à face. Elles se font face. Et pour nous, c'était très important cette année de relier ces deux maisons avec notre lancement et d'ailleurs avec d'autres activités, parce que cette année, nous commémorons le retour de la lumière au Portugal après 48 ans d'obscurité. Mais malheureusement, cette année, ce sont les 60 ans du début de l'obscurité brésilienne.
Oui, c'est vrai.
C'est le début de la dictature. Et nous avons voulu mettre ça en vis-à-vis. D'abord, il y a quand même un rapport colonial. Hein, donc, il a fallu. Donc, alors, et pour cela, on va avoir, dans la semaine du 16 juin, on va recevoir Marta Haas, qui est une jeune activiste brésilienne, qui vient d'ailleurs de Porto Alegre, qui a été ma doctorante. Et elle a une compagnie qui a d'ailleurs a tout perdu là, dans les flots de l'inondation, mais ça ne l'empêche pas de venir. Et elle va venir nous présenter un spectacle et une performance qui s'intitule « Aurore, nous nous lèverons ». Pourquoi Aurore au pluriel? Ce sont deux aurores, auroras, é uma aurora portuguesa e uma aurora brasileira. C'est une aurore brésilienne et une aurore portugaise. Toutes les deux ont combattu les deux dictatures, chacune de leur côté. Et cette jeune femme va nous faire une performance autour de ces deux femmes-là. Et ce sera à la Maison du Brésil et à la Maison du Portugal aussi. Pour nous, c'est important qu'il y ait ce va-et-vient. Et elle est très pluridisciplinaire. Donc, c'est à la fois des textes performés, mais elle bouge. Elle est proche aussi des mouvements chorégraphiés. Il y a aussi un des cafés littéraires, c'est-à-dire qu'ils nous arrivent par exemple à l'épicerie fine comme à Lisbonne, qui se trouve rue du Roi de Sicile dans le 4e arrondissement, et bien sur le trottoir, pardon, sur le trottoir, nous donnons aussi, nous proférons de la poésie, et voilà, donc c'est ça.
Donc tout un programme. On va écouter encore une musique. Et celui-là, c'est Acordai, de Fernando Lopes Graça, exécuté par la chorale JIP des Pays-Bas. Il faut dire que Fernando Lopes Graça fut peut-être le compositeur portugais le plus important du XXe siècle. Acordai est une chanson de protestation de l'époque où Salazar régnait. C'est l'un des chansons héroïques, des chansons héroïques, un recueil de marches, de danse, des chansons portugaises recueillies par Fernando Lopes Graça. On va l'écouter tout de suite.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc on vient d'écouter Acordai de Fernando Lopes Graça, exécuté par la chorale JIP des Pays-Bas. Et on est bien sûr sur Aligre FM, l'émission Lusitania, et avec Graça do Santos. Graça, pour ce festival, quelles sont les personnes qui composent votre groupe d'artistes? Et est-ce que c'est toujours les mêmes depuis le début? Parce que ça fait 17 ans que vous faites ce festival, Parfum de Lisbonne.
Alors, il y a un socle. Donc, avec Isabelle Vielle, on est un peu les deux inséparables. Et Isabelle s'occupe de toute la partie, alors les costumes qui sont très importants dans notre travail, toute une partie aussi liée à l'administration et à la cohésion de notre travail. Et il y a José Manuel Stief qui s'occupe de toute la partie des choix de textes littéraires. Pour la danse, il y a Alice et Adrien Martin. Et ensuite, les acteurs ou les artistes directement, les plus anciens dans le festival lui-même, c'est Augusto Veloso Pampolha, qui est lui brésilien et qui est avec nous depuis le début. Il y a Mariana Marques qui travaille déjà, qui est aussi ma doctorante, mais qui travaille avec nous déjà depuis une dizaine d'années. Gonçalo Cordeiro, qui est un collègue, mais qui est un très grand chanteur aussi par ailleurs. Et il est un bon comédien. Leonardo da Silva e Castro, qui est un de nos étudiants de master, qui est extraordinaire. Marisa de Souza Pontes, qui est aussi étudiante chez nous en master et qui chante. Elle a une voix incroyable. Si vous pouvez venir l'écouter dimanche prochain, vous allez être renversé par sa puissance vocale et sa présence. Et aussi Florent Dubois, qui est à la fois comédien, mais qui a aussi un mouvement de corps très, très intéressant. Et voilà. Donc par contre, à Lisbonne, nous avons aussi le soutien et très important l'accompagnement de Louise Gonçalves, qui est une compositrice et pianiste. Et elle travaille avec nous après à Lisbonne sur de nouvelles orchestrations, sur ce que nous faisons à partir de Paris.
Alors, après cette présentation de toute ton équipe, je voudrais juste passer encore une musique, celle-là d'Antonio Macedo. Canta, amigo, canta. C'est qui cet Antonio Macedo?
Alors, Antonio Macedo, c'est un des auteurs mythiques, en fait, des chansons protestataires. Là, c'est vraiment à la frontière entre l'après et l'avant 74, surtout l'après, et qui a un chant aussi lié au Parti communiste, hein, là, et qui vient, en fait, c'est des chants protestataires et qui vient demander, en fait, c'est cette idée. Chantons.
Viens, ami, chante avec
voilà,
moi.
Chante voilà. Avec moi, mais c'est lié au travail aussi. Moi, j'ai choisi des chants qui mettent la question du travail aussi parce que c'est un peu aussi notre thématique cette année.
On va l'écouter alors. Antonio Macedo, canta, amigo, canta.
Erguer a voz e cantar é força de quem é novo. Viver sempre a esperar, fraqueza de quem é povo. Vives em casa de tábuas, à espera de um novo dia, enquanto que a terra engole a tua antiga alegria. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. O teu corpo é um barco que não tem leme nem velas. A tua vida é uma casa sem portas e sem janelas. Não vás ao sabor do vento, aprenda a canção da esperança. Vem semear tempestades, se queres colher a bonança. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Já que me chamas amigo, prova-me lá que o és. Vem para a ceifa comigo, na terra sujar os pés. Eu vou contigo para o campo, eu vou comer do teu pão, tu dás-me força da vida e eu dou-te a minha canção. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão.
On vient d'écouter cette belle chanson Canta, amigo, canta. Chante, ami, chante de Antonio Macedo. Et vous êtes bien sûr à l'écoute de l'émission Lusitania. Aujourd'hui, nous avons avec nous Graça dos Santos, directrice du festival Parfum de Lisbonne. Alors, je voulais te poser une question parce qu'elle est très jolie, l'affiche. Enfin, qui a conçu cette affiche?
Alors, c'est une jeune femme qui est artiste. Elle est vraiment pluri-talentueuse. Et donc, elle conçoit tout le graphisme à la fois de tout ce qu'on produit aussi sur le site. Elle s'appelle Johanna Goussaert. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on s'appelle, on se voit très peu. On s'appelle et elle, je lui explique ce qu'on veut faire. Je vais parler de mouvement, le fait que c'était lié à la révolution et tout ça. Et tout de suite, elle a conçu ça comme une sorte des traits, des choses. Il y a à la fois du mouvement, mais que ça donne aussi l'idée que ça pourrait être écrit sur un mur vite fait. Et donc, et les couleurs aussi, j'ai beaucoup aimé les couleurs qu'elle a choisies. Et donc, c'est gay. C'est très gay, oui.
Et en même temps, comme tu dis, ça évoque le mouvement. Oui. C'est un trait qui se fait rapidement.
C'est ça.
Alors, quels sont les prochains spectacles?
Alors là, c'est donc on vous donne rendez-vous. Il y a trois choses cette semaine. C'est jeudi prochain à 18h30 au consulat du Portugal à Paris, métro Monceau ou Villiers. Et là, vous pouvez venir, comme on a parlé tout à l'heure, le film de Ginette Lavigne. Et ensuite, La nuit du coup d'État. Et ensuite, le week-end, notre gros week-end sera le week-end prochain, puisque samedi, vous pourrez voir le film L'Aigle au MK de Beaubourg. Et le lendemain, vous pouvez assister à nos performances à la Maison du Portugal et à la Maison du Brésil. Et ce sera à partir de 15h. Merci.
Alors, merci, Graça dos Santos. Lusitania touche à sa fin. Restez à l'écoute d'Aligre FM, version originale de Patrick Léon-Émile. À la technique, bien sûr, Célian et Armand, un grand merci. Et on se donne rendez-vous samedi prochain de 18h à 19h. Et si vous voulez savoir un peu plus sur ce festival, allez sur www.parfumdelisbonne.com et vous aurez tout sur ce festival. Au revoir à tous et merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.